c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business. Aujourd'hui, émission actualité, notre consultant en nouvelles technologies, Nikos. Nous avions fait les actualités d'été, nous avions fait les actualités d'automne, les actualités d'hiver. Nous allons aujourd'hui avoir les actualités de printemps avec Nicolas Ruiz qui nous vient de Bergerac, après être passé par divers endroits. Le propriétaire, fondateur, créateur des tablettes Evite, tablette professionnelle française. Nicolas, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi ?
Bon, t'as réussi à rouler parce que je crois que tu as roulé. Mais toi, tu roules à l'électrique. T'es pas au diesel à 2,20€ là.
Alors, j'ai traversé la France en électrique. Il y avait beaucoup moins de monde aujourd'hui, je te confirme.
Ah,
c'est
le bon côté, voilà. Ok. Bah écoute, on va commencer direct là. Il se passe des choses, t'as vu au Moyen-Orient. Moi, je me souviens, j'ai craché ma première boîte en 2002, c'était la guerre d'Irak. Donc forcément, je vois arriver la guerre d'Iran avec un petit peu d'appréhension. L'économie, il y a des répercussions qui vont arriver sur ça. Tu vois quoi, toi ?
Alors, il va y avoir forcément à un moment une inflation, puisque les matières premières vont exploser, vu que sans énergie, pas de production. Donc, compte tenu, là, on voit le pétrole, le gaz, surtout les réserves de gaz du Qatar. On va forcément avoir des répercussions. On a également des problèmes. Tu sais, beaucoup d'engrais sont fabriqués avec des produits chimiques qui viennent de là-bas.
Le nitrate.
Voilà. Et les semis, c'est bientôt. Donc, on va avoir des problèmes aussi sur les récoltes. Enfin, nous, et surtout les Indiens, les Asiatiques, etc.
Oui, parce que si j'ai bien vu, les nitrates et les engrais, on les prend de Chine.
Exactement.
Et là, actuellement, la pénurie du Trois d'Hormuz, elle concerne l'Asie plus que l'Europe.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, j'ai des amis qui sont en Asie. Il y a des pénuries, ça commence. Au Laos, les pompes sont vides. Et en Thaïlande, il y a la queue.
Oui, oui, en Europe, on est encore chanceux. Mais effectivement, il y a des pénuries beaucoup partout ailleurs.
Et ça me fait penser, toi, t'es livré de Chine ?
Alors, je suis livré sur certains produits, alors Asie, ça peut
d'accord,
être Hong Kong, Taïwan,
okay.
Mais effectivement Chine, et le hub de Dubaï est complètement fermé.
Donc, ah oui, là, il s'est passé quelque chose.
Voilà.
Il y a eu un mouvement de population, on va dire.
Voilà. Donc, maintenant, les hubs se déplacent en Turquie ou en Inde, à New Delhi. Donc, mais tout a été retardé. Ça prend effectivement, c'est problématique. En plus, nous, on a ce qu'on appelle la RAM apocalypse. Donc, tous les prix de la RAM et des SSD qui explosent,
oui.
Qui vont encore exploser le mois prochain.
On en a parlé il y a 3 mois d'ailleurs.
Voilà.
On en a parlé. Tu l'avais prédit, tu l'avais dit. Et ça continue.
Et ça continue. Ça va être
monter,
encore pire que prévu.
Oui, mais... oui. OK. Bon. On va pas faire notre doom teller, là on n'est pas au choc pétrolier. Juste entre parenthèses, les services d'immigration de Singapour sont un peu débordés, j'étais un peu mort de rire quoi. Il y a vraiment un mouvement de population qui s'est effectué et c'est Bali, Singapour, Hong Kong qui pour l'instant sont les grands gagnants des gens qui partent et la Suisse pour les comptes bancaires aussi.
Alors Singapour, oui effectivement, c'est pour ça que la Dubaï et les UAE ont commencé à faire des lois pour figer un peu les comptes bancaires, éviter que tout part.
Voilà.
Mais Singapour est effectivement le grand gagnant avec la Suisse, probablement Monaco également.
Ok, le Bitcoin, Active Refuge,
alors il se maintient bien, il n'a pas tant chuté que ça, mais c'est un range 70, il a repris un peu de pouvoir cette semaine. De toute façon, s'il y a une inflation, s'il y a une planche à billets, le Bitcoin en profitera, compte tenu du fait qu'il n'y a que 20 millions de Bitcoin et pas un de plus.
Ouais, c'est l'avantage du truc, hein, c'est qu'ils sont finis, un nombre fini.
Même si les ETF essayent, tu sais, on peut faire du levier sur les ETF ou acheter des fractions, ce qui fait que globalement on peut acheter plus de Bitcoin qu'il n'en existe. Ça peut être un actif, une valeur refuge, effectivement, dans ces prochains mois.
Et on a vu monter aussi beaucoup l'or et l'argent, mais on a vu aussi, il y a 2-3 jours, l'argent perdre 20% en une journée.
Alors c'est...
Ce qui veut dire qu'il y a des mouvements de fonds très importants. Là.
C'est en période de guerre, il y a beaucoup de volatilité, ce qu'on appelle les portes de saloon, ça monte très
d'accord.
vite, mais ça te revient très vite dans la figure.
Oui.
Donc il y a des gens qui aiment la volatilité, pour l'économie en général, c'est jamais bon, mais c'est effectivement ce qu'on va voir sur le pétrole, sur l'énergie en général, sur l'or, l'argent.
Alors, les gens ont un peu peur ici parce qu'il y avait déjà une crise du bâtiment, très claire. Il y avait déjà, on a fermé un nombre de sociétés d'entreprise en France extrêmement important. On a, je crois, je ne sais plus combien, j'ai plus les chiffres, j'aurais dû les prendre avant, mais je sais qu'on a battu des records depuis plusieurs dizaines d'années, voire depuis l'après-guerre quasiment. Enfin, sur l'entreprise en 2025, en début 2026 et autres. Et là, ils voient arriver les prix du pétrole qui s'envolent. Ils ont très peur pour les prix du gaz à venir.
Oui.
Il y a vraiment des inquiétudes pour l'économie de manière générale. Donc, avant d'aller sur l'IA, ce genre de choses et autres, économie française, toi, tu penses que ça va passer ou tu penses que, comme certains, il y a une lame de fond qui arrive doucement mais sûrement là?
On a en fait le problème, c'est qu'effectivement, il va y avoir une crise. Alors, la durée et la façon dont elle termine, personne ne peut répondre. Hein. Ça peut se terminer très rapidement. Quoique, là, avec les champs pétroliers endommagés, ça va prendre quelques temps. Hein. Ça ne se répare pas en deux minutes. Le fait est que tout ce qui est ciment, goudron, se fabrique à partir du pétrole. Donc là, effectivement, les prix vont exploser. Moi, je le vois, j'ai vendu des tablettes murales, donc des tablettes qui équipent du BTP. Le marché français s'est écroulé. Hein. Moi, je n'équipe plus grand-chose dans le marché français. J'ai pu équiper le building de...
La défense.
Voilà, de la défense, effectivement.
Oui, et actuellement, on ne lance pas de nouveaux projets, c'est ça?
Mais c'est ça. Moi, j'ai des clients qui ont complètement... Qui ont déposé bilan. Ouais. J'ai des clients qui commandaient beaucoup de tablettes murales pour des maisons, des pavillons, qui ne m'en commandent plus du tout et qui me disent
les maisons connectées, tout ça, là.
Voilà.
Ça a marché durant bien 10 ans.
Ça a marché. Et des clients qui ont fabriqué des centaines par an de pavillons et qui, du jour au lendemain, ils m'ont dit, j'ai un projet cette année, un pavillon cette année. Qui, depuis le début de l'année, ils ne répondent plus. Hein, l'email n'existe plus, donc c'est terminé pour eux.
D'accord.
Donc, effectivement, alors, je suis plutôt pessimiste. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'en plus, on n'a pas de marge de manœuvre en France avec notre déficit, avec nos problèmes gouvernementaux, l'élection qui arrive.
Bon, visiblement, ils font ce qu'ils veulent. Ils en impriment, ils font une nouvelle ligne sur le fichier Excel. Là, et ça résout beaucoup de choses.
Tu vois, c'est marrant parce que moi, je vois les demandes qui augmentent en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais en France, ça baisse.
D'accord.
Moi, je vois la lame de fond, effectivement, parce que nous, on n'a plus de jeu, on n'a plus de mou, en fait.
Oui, et puis on a bridé les forces vives.
Oui.
On ne vend plus à l'extérieur, quasiment.
Alors qu'on a un déficit incroyable de logements. Ouais. Hein, tu vois comment les loyers augmentent. Tu poses une annonce pour une location, tu as 500 demandes dans la matinée. Enfin, c'est des trucs de fou.
Et on va taxer les petits colis qui arrivent de Chine.
Alors, c'est réglé, puisque les petits colis n'arrivent plus.
Voilà. Ils arrivent donc, la boîte qui les recevait est en train de faire faillite.
Ils ont licencié.
Et donc, on va taxer les gros colis, maintenant.
Alors, on va taxer les gros colis. Ils arriveront ailleurs en Europe jusqu'à que l'Europe décide.
Voilà, c'est bon. Alors, on est en période de guerre. En période de guerre, il y a une grande nouveauté, là. C'est l'IA en période de guerre. Là, on voit maintenant que l'intelligence artificielle rentre vraiment dans la guerre. C'est la première fois que ça arrive, ça?
Alors, à ce niveau, à cette échelle, oui. C'est-à-dire que là, sur l'Iran, on a des généraux qui témoignent et qui trouvent dangereux ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'IA choisit les cibles, tire, et seulement après, un humain vérifie. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Iran. Donc l'Iran, c'est la première guerre moderne. Tu vois, l'Irak, la guerre du Golfe, c'était la première guerre qu'on voyait en direct sur CNN.
Oui.
C'était la première guerre à la télé.
Avec les images du ciel, là, on voyait les...
Et l'Iran,
les frappes chirurgicales, ils appelaient ça.
C'est la première guerre Skynet. C'est la première guerre où l'IA décide, agit, et on vérifie seulement en aval. Ce qui fait que sur le Financial Times ou d'autres sites américains, tu vois des généraux qui témoignent sous anonymat, qui trouvent que c'est quand même très, très effrayant, puisqu'ils vérifient après, mais ils n'ont pas assez de salariés, de personnes, pour vérifier tout.
Mais ça a provoqué d'ailleurs un clash entre Anthropic, Claude, où Amazon est majoritaire. Ce n'est pas à Amazon, contrairement à ce que j'ai dit il y a 3 mois. J'ai demandé à Claude, il m'a expliqué. Amazon est un investisseur qui a 40%. C'est Anthropic. Moi, je trouve que c'est l'IA la plus technique, pour les choses techniques, c'est la plus performante. Et c'est elle qui gérait les frappes du début de guerre. Et il y a eu un énorme clash entre Anthropic et le Pentagone.
Exactement. Anthropic a fait son moment Oppenheimer avec Truman.
Alors explique-nous un petit peu ce chose.
Oppenheimer, quand il a fini de créer la bombe, Truman a commencé à vouloir faire une politique compte tenu qu'il possédait la bombe. Et Oppenheimer s'est opposé à cela en disant non, on ne peut pas faire ça avec la bombe atomique. Ce qui fait qu'il a été marginalisé, il a été remplacé au fur et à mesure dans l'histoire par d'autres personnes, d'autres ingénieurs pour la suite du développement de la bombe atomique en Amérique.
Donc, ils ont saboté l'évolution de la bombe pour pas qu'on aille trop loin. D'ailleurs, ils ont dit maintenant ça suffit, c'est suffisant, on arrête les recherches, on va pas plus loin. Il y a des bruits qui vont sur ça.
Hein. Oui, bon, les Russes sont allés plus loin, ils ont fait la Tsar Bomba qui était une bombe incroyable qui a explosé en haute atmosphère, qui a fait l'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre. Mais les Américains ne sont pas allés aussi loin. Ne serait-ce que, Oppenheimer, est-ce que Anthropic a vécu son moment Truman, c'est-à-dire est-ce qu'il s'est marginalisé? On ne le saura que plus tard. Au profit d'OpenAI ou d'autres IA, puisqu'ils ont accepté.
Oui, parce que le truc, c'est qu'Anthropic a dit qu'il voulait une clause éthique. Parce que visiblement, il avait utilisé notamment cette fameuse école en Iran, là, avec des jeunes filles, des petites filles, qui étaient des enfants de militaires, qui ont été ciblés par les Tomahawks, là. Et Anthropic a dit non, on peut pas être complice de ça, on voudrait, Et le Pentagone a dit non, on ne veut pas qu'il y ait des garde-fous, ces militaires, nous on dit ce qu'on veut, et le truc il fait sans censure, quoi. Voilà. Voilà. Et donc il y a eu, je pense que ça a été loin d'ailleurs, hein, je crois, le clash. Hein.
Oui, et alors Anthropique est déjà trop bien intégré dans le Pentagone, c'est-à-dire que quand même, quand Trump a dit qu'il bannissait Anthropique de tous les marchés, le Pentagone a dit non, il faudra des mois et des mois pour pouvoir le désactiver de nos systèmes. Donc, bon, ils vont trouver un accord. Ce qui m'inquiète un peu, c'est, je ne sais pas si tu as vu cette étude scientifique qui a testé toutes les IA dans des scénarios type Wargame, tu sais, le film des années 80. Dans 95% des cas...
Tu veux, je veux une nouvelle partie.
Voilà. Et dans 95% des cas, l'IA déclenche une guerre nucléaire dans ces simulations faites par ces scientifiques. Et moi, je le vis au quotidien dans mon travail, c'est que des fois, on a des petits problèmes juridiques avec certains fournisseurs ou salariés. Et je remarque que l'IA me propose toujours d'aller au procès et au bout du procès. Et dernièrement, je lui ai dit, écoute, là, on peut faire un accord avec cette personne pour moins de 500 €. Est-ce que tu crois que c'est vraiment pertinent d'aller au procès, ne serait-ce qu'en première instance, ça va me coûter beaucoup plus cher en frais.
Ouais.
Et l'IA qui me dit, ah oui, finalement, t'as raison. Mais tu vois,
elle s'excuse très bien, voilà. L'IA d'ailleurs, elle sait très bien le faire, ça.
Et autant ChatGPT que Claude, les deux me proposaient d'aller faire un procès de 10 ans et de mettre 10 000 € pour régler le problème.
Parce qu'ils ont lu Sun Tzu et que c'est l'heure de la guerre, voilà. Et qu'ils vont au clash et vont gagner, quoi.
Voilà. Et effectivement, je peux comprendre que les scientifiques, voilà, les IA vont toujours sur l'étude la plus nucléaire.
Alors, OpenAI et puis Google DeepMind aussi, hein, se positionne hein, pour rentrer dans l'industrie de guerre.
Oui.
On constate d'ailleurs que Altman de OpenAI, il est en train de virer ses développeurs.
Complètement. Je crois qu'il a fait un petit tweet.
Il l'a dit hein, directement. Hein.
Il les a remerciés. Merci pour le travail accompli. Merci pour tout.
Ouais.
Sous-entendu, on n'a plus besoin de vous.
Ouais.
Et Anthropic poste encore des annonces pour recruter des développeurs. Je ne sais pas si tu as vu. Et c'est marqué en fin d'annonce, nous ne savons pas si ce poste existera encore dans un an.
Ouais.
Sous-entendu, voilà. C'est un CDD.
Au moins, ils sont sincères.
Bien sûr.
Parce que moi, j'ai vu passer la news d'Amazon. Ils ont demandé aux gens d'Amazon de documenter leur code, d'expliquer aux IA quel était leur code.
Exactement.
Et puis après, ils sont partis.
Alors, ils ont viré des gens.
Oui.
Aux gens qui restaient, ils ont demandé d'apprendre à l'IA. Et puis,
voilà.
Ils ont finalement viré.
Ah oui, ça, c'était assez beau. Puisqu'on parle de guerre, eh ben, ça y est, on a un Terminator. On a même deux Terminators sur le front de l'Ukraine, je crois.
Oui, effectivement.
Voilà, donc on a des robots en forme d'humains, avec deux jambes, humanoïdes, et qui sont un peu armés, je crois. Enfin, explique-nous un peu, c'est quoi cette histoire.
Effectivement, une société américaine. Alors, je ne veux pas me tromper dans le nom, donc je ne citerai pas son nom, d'accord. Mais a loué au gouvernement ukrainien. Alors, la location, je trouve
c'est
ça
de la location,
très drôle,
là.
Voilà.
C'est d'accord.
À 125 000
dollars. Il y a un dépôt de garantie.
Il ne faut pas qu'il y ait une rayure en fin de LOA.
Voilà.
Allouer deux humanoïdes qui permettent donc d'aller sur le champ de guerre ukrainien et de remplacer des soldats ukrainiens. C'est un premier test. Bon, la batterie est limitée à 4 heures.
Ouais.
Et je pense qu'en face, les Russes vont vite comprendre que prendre des fusils de paintball sera peut-être plus efficace que des fusils d'assaut, puisqu'il suffira de viser les caméras pour les rendre aveugles.
Ah, mais il y a une course technologique là-bas. Hein.
Voilà.
Il y a une course technologique, on l'a vu, hein. Les drones, anti-drones, guerre électronique, ça veut dire brouillage d'ondes.
Starlink,
ouais. Qui est arrivé pour donner l'information. Donc les Russes ont mis de la fibre optique.
Tout à fait.
Donc en fait, il y avait les drones qui étaient reliés à un câble de fibre optique. D'ailleurs, il y avait des champs qui étaient remplis de câbles, c'était assez rigolo. Et puis, l'IA, c'est pas la première fois que ça va sur le front, puisqu'on avait des espèces de chiens robots, là, qui étaient, en fait, c'était des transporteurs de logistique et de matériel.
Les chiens de Black Mirror, exactement les mêmes.
Oui, c'est qui ressemblait. Donc il y avait déjà des robots là-bas, mais qui amenaient du ravitaillement, des munitions et autres. Mais là, ils ont mis des combattants.
Ouais. Ils commencent à mettre des combattants et c'est assez intéressant parce que les Américains demandent l'expertise des Ukrainiens sur comment abattre les drones iraniens puisqu'ils se rendent compte qu'éliminer un drone à 20 000 dollars avec un missile Patriot à 4 millions de dollars, c'est pas très efficace.
Ça, c'est la grande blague aussi de la guerre actuelle, hein, c'est que finalement, la bonne vieille casserole, elle est beaucoup plus puissante. Quoique, dans l'autre bonne blague, moi j'ai vu arriver les lasers Star Wars.
Oui, ça c'est en Israël qui commence à tester des lasers, donc le bouclier.
T'as vu le bruit qu'ils font là d'ailleurs,
ouais,
et puis c'est vraiment des saccades, donc ils envoient des saccades de rayonnement colorées, c'est Star Wars.
Exactement, ouais, exactement. Ouais. Et ils détruisent les drones ou les missiles avec des lasers.
Ah, de temps en temps ils en détruisent un.
Bon, voilà. Ce sont des tests, c'est un bêta-test.
Ouais, mais il y a des choses qui se passent, et la guerre effectivement est en train de...
Bon. Tu connais le dicton d'Einstein, hein. Je ne sais pas avec quelle arme on fera la troisième guerre mondiale, mais la quatrième on la fera avec des massues et des cailloux.
Et ouais. Bon,
Plus tard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, j'espère.
Hein, c'est pas très pressé. Ok, on va repartir en nouvelles technologies. XAI, Elon Musk, il nous fait plein de trucs, Elon Musk, en ce moment-là. Il veut fusionner Tesla avec... qu'est-ce qu'il veut fusionner?
Alors oui, il y avait des rumeurs avec Tesla, mais finalement non, ce sera juste SpaceX avec XAI, et donc X, le réseau social, anciennement Twitter.
En fait, c'est Grok, il veut mettre Grok et Tesla ensemble, c'est voilà, ça le truc. Hein,
Alors, Grok et SpaceX, a priori, pour le moment, il n'y a pas de fusion avec Tesla.
Pardon.
Il va faire un SPAC, c'est-à-dire il a une coquille vide déjà à côté, il va tout mettre dedans, on valorise le tout à plus de 1000 milliards. Ça serait la plus grosse IPO de l'histoire, ça se passerait en fin d'année.
IPO pour les gens ?
IPO, c'est introduction en bourse.
D'accord.
Et du coup, ce qui ferait. Alors, Musk, avant-hier, avait 839 milliards de valorisation à lui tout seul, ce qui fait qu'il passerait le trillion de 1000 milliards de dollars.
Oui, il les a pas dans sa poche, c'est une valorisation. On estime
mais ce serait
que.
Le premier.
Voilà. Ce serait le premier à être estimé. À... Voilà.
Et bon,
il vient du futur, il a dit d'ailleurs.
Voilà. Ce serait une façon surtout de remercier ces investisseurs qui ont racheté X pour 50 milliards, puisque mine de rien, X est valorisé 50 milliards, mais c'est que du papier. Personne n'achètera X 50 milliards. En le mettant dans SpaceX, ça le valorise vraiment et ça permet donc de distribuer des actions à ses actionnaires qui lui ont fait confiance.
Mais Elon Musk, ce n'est pas qu'un entrepreneur qui sait dormir par terre dans son usine quand il y a un problème à régler, c'est aussi quelqu'un qui sait sentir l'argent.
Alors Musk, il a cette particularité de faire toujours du all-in, c'est-à-dire il a vendu PayPal, il a tout remis dans Tesla.
Ouais. Jusqu'à... Il se met en risque d'ailleurs,
et,
régulièrement.
Et Tesla, à l'époque de la Model 3, a failli terminer. Voilà. Et là, il avait aussi tout mis dans SpaceX, et SpaceX, ils rataient leur premier vol de Falcon 1 en 2012, c'était terminé. Et à chaque fois, il a cette capacité à tout risquer, mais finalement, ça paye.
Lui, il nous prépare aussi... alors oui, il fait partir beaucoup de cofondeurs, là, et par contre, lui, il recrute.
D'accord.
Visiblement, lui, il recrute beaucoup. Voilà. Et il y a son rival, on est en train de voir arriver une rivalité, parce qu'il se positionne aussi, lui, sur l'IA et sur les robots humanoïdes.
Optimus, oui.
Avec Optimus. Et visiblement, il y a une rivalité qui apparaît avec Hyundai, si j'ai bien compris.
Oui.
En face, alors le marché des robots humanoïdes. On commence à voir des robots humanoïdes un peu partout. Pas ici.
On peut en acheter. Le Unitri est en vente. Il vaut 10 000 à 15 000 dollars. Tu peux l'acheter sur Alibaba et te faire livrer à domicile.
Donc, ça commence vraiment à arriver. On voit aussi passer des vidéos de robots en panne ou qui délirent un peu, qui font un peu n'importe quoi. Donc il y a une petite phase comme ça.
Celui qui danse, celui de faire la vaisselle, etc.
Oui. Ou celui qui vient, il veut te servir une bouteille, il détruit l'étagère, là. Des choses comme ça qui sont rigolotes ou pas.
Alors pour le moment, on est plus au niveau de la gériatrie sur certains robots, effectivement.
Oui, ça semble pas la performance totalement.
Voilà.
Par contre, ils sont en train de nous faire des trucs. Avec 5 doigts, devant, derrière, là ils sont en train d'essayer de copier le truc humain.
L'appréhension,
oui. Oui, et on voit deux façons de faire la robotique, là. La première, c'est tu fais un robot et tu charges des éprômes, tu charges des programmes, par exemple, tu as scanné le meilleur chef cuistot de sushi, tu achètes le truc, une boîte française s'est placée là-dedans, il me semble.
Oui.
Et la deuxième, c'est tu fais le robot auto-apprenant. Donc, t'as remarqué ça aussi, toi? Il y a vraiment deux voies qui se mettaient en place, là.
Un peu comme le modèle de Yann Kuhn, qui veut faire, en fait, les world models, qui apprendraient tout de leur environnement comme un enfant.
C'est ça.
Oui, alors, la deuxième méthode... Alors, c'est toujours compliqué, parce que la deuxième méthode peut payer à long terme, mais souvent... Ces boîtes coulent avant d'avoir fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire... les premiers voilà. Généralement...
Alors que la première méthode, c'est-à-dire juste spécialiser dans un domaine, c'est efficace, ça fonctionne tout de suite, ça fait quelque chose, et quitte derrière à mettre des add-ons et de l'améliorer. Donc c'est deux études. Le côté robot humanoïde, bon, c'est très japonais, tu sais, Astro Boy dans les années 70,
oui,
Goldorak.
Ah oui, le prince Alcor.
Voilà. C'était très japonais.
Prince de Fort, pardon.
Voilà. Ils voulaient des robots humanoïdes, pourquoi? Vieillissement de la population et s'occuper d'eux, puisqu'ils ne voulaient pas d'immigration. Alors que nous, en Europe, tu sais, on a fait les rovers qui allaient sur Mars avec 6 roues, on a fait ce genre de choses, mais on n'a jamais fait de robots humanoïdes. C'est assez nouveau que dans la culture occidentale, on fasse de l'humanoïde.
Oui, parce que tu as une baisse de performance parfois. Tu as l'impression qu'on essaie de passer à un robot humanoïde. Parfois, on remplace des trucs qui marchaient un peu mieux, mais on veut un robot humanoïde.
Bien sûr, ouais. Alors que marcher, c'est compliqué, courir, c'est encore plus compliqué.
Oui.
Mais ça permet effectivement à un robot humanoïde d'utiliser tous les outils que peut utiliser un humain. Donc à terme, ça sera la bonne idée, effectivement. Il faut mimer.
Mais il y a un business model. Hein. Sur ta télévision, tu peux acheter une application.
Oui.
Et tu en as qui te vendent. Aujourd'hui, il y a une start-up française dont j'ai oublié le nom, là, mais qui s'est placée dessus. Elle te vend le robot et tu peux acheter tel ou tel profil, tel ou tel programme supplémentaire. En fait, leur rentabilité, elle n'est pas sur le robot, elle est sur les activités et les téléchargements que tu vas faire.
Oui, le business model des cartouches d'encre.
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, tu nous as parlé avant Noël des puces IA et tout. Tu m'as dit, tu nous avais dit qu'elles allaient augmenter. Ça, on l'a vu aussi. Mais Nvidia, alors Nvidia, on s'inquiétait pour Nvidia. On se disait, c'était pas forcément gagné à l'automne. On en avait parlé. Je crois que c'était en juillet ou en août. Là aujourd'hui, Nvidia, dis donc, quand tu vois les perspectives et les projets, on s'inquiète plus là.
Alors Nvidia a annoncé 1000 milliards de ventes d'ici 2027, 1000 ouais. milliards de dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quoi? C'est un tiers du PIB français.
Elle ne me rend pas compte.
sauf que Nvidia, c'est 40 000 personnes. Le PIB français, c'est 20 millions d'actifs. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc, on est sur des échelles qui sont incroyables. D'ailleurs, globalement, dans tous les investissements IA, on est sur des échelles qui, d'un point de vue de l'humanité, dépassent tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, à chaque fois, on s'étonne. YouTube, pour te donner une idée, il y a plus de données sur YouTube depuis 10 ans que depuis le début de l'histoire de l'humanité a pu créer de données autrement. Donc tu vois déjà l'exponentialité.
Cette exponentielle de la technologie.
Voilà. Et là, ne serait-ce que tu regardes juste les investissements d'OpenAI, donc les data centers qu'ils créent aux États-Unis. Juste, si tu regardes les data centers, les puces qu'ils mettent dedans, l'énergie qu'il faut, c'est plus que les centrales nucléaires américaines entières. C'est-à-dire qu'il va falloir doubler le parc nucléaire américain juste pour une société. Donc on est encore plus dans quelque chose d'exponentiel. Et Nvidia qui crée 1000 milliards de données de valeur en moins d'un an, avec 40 000 personnes, c'est quelque chose qui, historiquement, c'est jamais vu. C'est une inflation incroyable.
Alors, il lance un nouveau LPU, visiblement,
oui.
là.
Oui.
Et puis, il tape dans le temps réel. Mais en même temps, ils vont être confrontés à une espèce de concurrence, puisqu'on voit arriver... Ils ont coincé tout le monde avec leur GPU.
Oui. Alors que ce n'était pas forcément la meilleure méthode.
Oui, je suis d'accord. Et là, on voit arriver Apple et d'autres qui vont faire des processeurs
oui.
qui, eux, pourront répondre aux instructions GPU. Donc, il va y avoir un jeu qui va se placer encore d'ici un an ou deux. Il y a une concurrence qui va s'effectuer. Ils n'ont pas encore 100% du marché.
Non, et là, on voit que même certains concurrents commencent à dire « Installez votre agence sur un Mac mini » puisqu'on se rend compte quand même que l'architecture Apple, avec la RAM unifiée, avec la mémoire, avec l'espace de stockage, c'est quand même quelque chose de très puissant. Et il y a deux concurrences, il y a effectivement deux écoles. Il y a une troisième école, j'ai vu une société américaine qui a gravé directement le modèle dans un CPU, dans la mémoire cache, tu sais, du CPU, il y a quelques kilo-octets.
Ouais.
Ce qui fait que l'accès est instantané, l'IA répond instantanément. Le défaut, c'est une ROM, donc l'IA ne peut pas apprendre plus que ce qu'on lui a mis. Le modèle est entraîné, mais il ne peut pas être mis à jour.
Et on lui met une SSD à côté, non?
Alors justement, l'idée, c'était d'éviter les goulets d'étranglement
oui, bien sûr.
Avec
les bus,
le PCI,
ouais, ouais,
voilà. Ouais. Et ce qui fait que c'est extrêmement rapide et surtout extrêmement peu coûteux. Mais pour le moment, ça ne se met pas à jour.
Oui. Bon, eh ben, écoute, ça servira à faire des choses pour du matériel qui n'évolue pas,
oui.
style un bulldozer, un avion, un truc qui est figé.
C'est ça.
Et qui, dont les caractéristiques
Tout à fait.
N'évoluent pas. Bon, ben, ça, c'est intéressant. C'est à long terme, ça?
Alors, c'est à long terme. Non, on peut déjà tester sur Internet et même gratuitement, vu que ça ne coûte rien à faire.
Ouais.
Mais le modèle n'est pas super fou, puisqu'il ne pourra pas se mettre à jour.
Donc. Bon, je veux dire, la porte qui te dit bonjour et qui s'ouvre toute seule, c'est quoi? C'est un an et demi?
Ça existe déjà. Avec Alexa, Amazon, ça existe déjà, mais ça n'a pas trop d'intérêt.
Ok, bon, écoute, dans les 5 dernières minutes, on va parler un petit peu de conquête spatiale.
Oui.
Hein, on en parle un petit peu à chaque fois. Visiblement, la NASA a vraiment perdu beaucoup de technologie. On va dire ça comme ça. Hein, quand tu vois les images de l'époque, en ça, ce qu'ils ont fait, on ne sait plus le faire. Et Artemis, finalement, ils vont aller faire le tour de la Lune, mais sans les gens.
Alors, ça c'est déjà fait. C'est-à-dire, l'Artemis 1, c'était un tour de Lune sans les gens.
Oui.
Artemis 2, ça sera un tour avec la Lune, avec les gens.
Oui, mais ça, ils ont annulé, je crois. Hein.
Alors, c'est retardé, c'est-à-dire...
Ça fait un an que c'est retardé.
Non, c'était prévu pour février. Ils avaient même avancé un moment, ce qui était étonnant. C'était prévu pour février.
Et celui qu'ils ont repoussé l'an dernier à Pâques, là, c'était...
Sur Artemis.
C'est pas celui-là, là, qui repoussait
en tout cas, là, il y en avait un prévu février, mais il y a eu un souci sur un hublot d'étanchéité, donc ils l'ont retardé dans un ou deux mois.
D'accord.
Mais ils ont rajouté une mission entre les deux, c'est-à-dire, ils pensaient aller sur la Lune sur Artemis 3, 2027, ce qui est complètement hors de portée désormais, donc il y aura une mission complémentaire puisque
les il y a une 2B alors.
Voilà, puisque les missions, enfin surtout les technologies SpaceX sont pas prêtes et pas matures, c'est-à-dire ça n'a jamais été testé, donc on va retarder. Ils ont remis Amazon dans la course avec son lander. Donc finalement, il y aura peut-être deux solutions pour aller sur la Lune.
On voit arriver d'autres acteurs privés. Oui. Il n'y a pas que SpaceX, il y a aussi Amazon qui est celui qui faisait Virgin Media, là, ça aboutit pas un petit peu, là, Branson. Là.
Il veut refaire un spaceship, mais le premier, le problème du premier, c'est que c'était quand même un produit dangereux. C'est-à-dire que c'était un vaisseau qui faisait à la fois avion...
Là, ça correspond aux deux personnages.
Et, bon. Avion et vaisseau spatial, technologiquement, c'est hyper intéressant, le Space Knight. Mais d'un point
nous on a fait un Concorde nous hein. il n'y a pas très très longtemps on avait fait un Concorde nous.
C'est vrai.
Là-haut hein.
mais le Space Knight c'est surtout quand tu passes de mode avion à mode vaisseau spatial, il faut faire des procédures et ça avait causé son crash il y a quelques années, un mort et un blessé grave, je ne sais pas si tu te souviens, puisque bon il y a un moment si tu te trompes dans les trucs tu exploses l'appareil, donc c'est pas une technologie, c'est une super belle technologie mais c'est un cul-de-sac en fait technologique, donc ça n'a pas d'intérêt.
Ok, SpaceX qui nous fait des trucs de fou, ils veulent d'ailleurs faire un data center en orbite.
Alors ça, tu vois, c'est typiquement du Musk.
Oui.
Quand il veut nous faire du Hyperloop, on n'y croit pas du tout.
Tu sais, et pourtant qu'il le fait.
Il a fait quoi ? Dis-moi. Il a fait Las Vegas.
Oui, et puis c'est fait copier par les Chinois qui, eux, font des choses qui ressemblent.
Alors Las Vegas, je ne sais pas si tu as vu les vidéos sur Internet, donc on a un tunnel sans aucune sortie de secours, sans aucun, avec des voitures qui suivent. S'il y en a une qui brûle devant, tu n'as aucune façon de t'échapper.
Ouais.
Donc, tu sais, le tunnel sous la Manche, nous, il y a trois tunnels, hein, dont un tunnel d'évacuation. Il n'a pas prévu ça. Et le fait est que finalement, mets un métro à la place et tu pourras mettre un peu plus de densité de population que trois voitures qui suivent.
L'Hyperloop, au départ, c'était le rêve qu'on avait tous en étant gamin. Là, on met des tubes
à vide,
avec éventuellement les supraconducteurs et la lévitation pour éviter les frottements.
Le maglev japonais.
Et qu'ils ont fait en Chine d'ailleurs aussi. Hein. Et là, tu vas très très vite parce qu'il n'y a pas de frottement.
Voilà. Alors le souci, ça peut marcher sur une longue distance, mais pas sur des courtes distances, parce qu'à un moment, il faut faire le vide, enlever le vide. Si tu as des stations tous les 100 mètres, ça ne sert à rien.
Absolument.
Tu perds le temps.
Ouais.
Deuxième chose, la Suisse a fait ce projet il y a plus de 25 ans. Le rapport est public. Et ils ont vu le cul-de-sac technologique, justement, le coût et le désintérêt total. Enfin, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. C'est une imagination d'un enfant, comme on imagine des projets quand on est petit, comme un data center dans l'espace. Ça ne fonctionne pas.
Toi, tu penses que ça ne fonctionne pas ?
Le
data center. On a tendance à se dire, au niveau refroidissement, c'est l'endroit parfait si on se protège du soleil.
Eh bien non, puisque le vide ne permet pas d'évacuer la chaleur. Le vide n'est pas vecteur.
Ah,
et donc sur l'ISS, tu as des radiateurs qui font la taille de terrain de foot pour tenter de dissiper le peu de chaleur qu'ils font. C'est très compliqué. Le deuxième truc, bon, je te parle pas du débit, c'est-à-dire on transfère les données sur Terre, quelle bande passante, on ne peut pas. Et le troisième, c'est que l'énergie, c'est-à-dire l'ISS, avec les dizaines de panneaux solaires qu'ils ont, tu peux alimenter de bons serveurs à tout casser.
D'accord. Donc c'est effet d'annonce.
Effet d'annonce. Alors, on l'a fait sous l'eau. Tu sais, Microsoft a essayé sous l'eau de mettre des serveurs sous l'eau, puisque ça se refroidit très bien, pour le coup.
D'accord.
Ils l'ont sorti. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent envoyer techniciens quand il y a un problème. Même problème dans l'espace.
Oui. Là, il faut les dauphins, là.
Voilà. Et dans l'espace, on fait quoi ? On envoie des techniciens quand il y a un pépin ?
Tiens, je rebondis dessus. On a fait quand même, depuis 2026, une découverte fantastique. Ça s'appelle l'énergie du vide.
Oui.
On s'est rendu compte qu'effectivement, le vide, on pouvait communiquer de l'énergie, que le vide n'existait pas, le vide générait des microparticules.
Exactement.
Ce qui veut dire que si on accède à la fusion, on crée de l'énergie dans le vide, et via le quantum en fait c'est de la physique à très très bas niveau, on peut prendre de l'énergie à un endroit et l'envoyer à un autre.
Effectivement.
C'est une découverte phénoménale. Quand on y réfléchit, quand on fait aux applications, aux conséquences, c'est extraordinaire.
Le principe de voile de ce type existe en fait depuis, on l'a théorisé il y a 40 ans, si on fait une voile assez grande et qu'on récupère tout l'énergie du vide, on peut propulser un vaisseau et on peut le faire accélérer.
J'avais entendu pour les photons, ça,
On peut l'accélérer, voilà. Et arriver à 95% de la vitesse de la lumière. Mais effectivement, bon, là-dessus, on fait encore des progrès. Effectivement, on se rend compte que le vide n'existe pas. Il y a l'énergie partout.
Et finalement, tout ceci est encapsulé dans autre chose. Et le vide pur est créateur de matière.
Et en labo, on peut créer à partir du vide des choses, des éléments.
Oui, qui apparaissent. Pas,
voilà, tout
absolument.
Spontanément.
Absolument, absolument. Et ces choses-là sont potentiellement très riches en énergie.
Exactement.
Ouais. Ok, Nicolas, bah écoute, c'était l'information de printemps. Je te remercie beaucoup. Si tout va bien, on te verra en juin ou en juillet.
Avec grand plaisir.
Voilà. Merci à tout le monde. Tu nous dis au revoir et à bientôt. Dans ce jour de solstice d'été, là, je crois, me semble-t-il.
Salut, salut, à bientôt.
À bientôt, à bientôt. C'est le printemps. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine.
RLP Business.
RLP. Radio Libre en Périgord.